Voici une question dont la réponse en étonnera plusieurs. Est-ce que l'homme peut trouver un sens à sa vie sans Dieu? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse remplie de sagesse, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Aujourd'hui, mes amis, on commence le livre de l'Ecclésiaste. C'est un livre qui m'a ouvert les yeux à bien des points de vue quand j'en étais à mes premiers pas en tant qu'enfant de Dieu. Et il continue à m'instruire aujourd'hui après plus de 28 ans. J'ai bien hâte de voir ce que je vais apprendre suite aux questions que voici. Qui est l'auteur du livre de l'Ecclésiaste? Est-ce que la philosophie de l'Ecclésiaste rapporte la pensée de Dieu ou celle de l'homme? Est-ce que l'homme peut trouver un sens à sa vie sans Dieu? Est-ce que Salomon a reçu la sagesse nécessaire pour gouverner le peuple de Dieu? A-t-il reçu une sagesse spirituelle? Est-il possible d'être à la fois sage et insensé? Pourquoi est-ce qu'on doit s'empresser de s'amasser un trésor dans le ciel? Qu'est-ce qui assure l'échec de tous nos efforts humains? Est-ce qu'on peut trouver le contentement sans Dieu? Restez là. Le Seigneur est sur le point de nous enseigner des choses merveilleuses par la bouche de son serviteur, le pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Merci, Seigneur, de pourvoir à tous nos besoins. Et merci, Seigneur, de nous enseigner ta parole jour après jour. Tu es tellement bon envers nous. On ne manque de rien, Seigneur. Spirituellement, matériellement, on a tout en toi. Alors parle à nos cœurs, donne-nous la richesse de ta parole aujourd'hui et sers-toi de nous pour enrichir les autres. On te le demande dans le beau nom de Jésus. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons complété l'épître de Paul aux Philippiens. Cette épître a parlé de la joie. Elle nous a exhortés à toujours se réjouir dans le Seigneur. Elle nous a présenté la philosophie de la vie chrétienne, Christ qui vit en nous. Elle nous a présenté le modèle de la vie chrétienne qui comprend l'humilité et la recherche de la gloire de Dieu. Elle nous a présenté la récompense de la vie chrétienne, être en présence de Dieu pour l'éternité, avoir une relation personnelle avec lui et le servir selon les responsabilités avec lesquelles il nous récompensera. Nous avons aussi vu la puissance de la vie chrétienne dont la source est la joie et son sanctuaire la présence de Dieu. Autrement dit, si nous désirons marcher avec puissance, il faut avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous retournons dans l'Ancien Testament et nous étudierons le livre de l'Ecclésiaste au cours des 12 prochaines émissions. Ce livre nous présente le pôle opposé à celui de l'Épître aux Philippiens. Nous voyons l'homme naturel qui cherche le contentement dans la création. Rien ne peut donner un sens à sa vie, ni remplir le vide de son âme, car il ne connaît pas Dieu. Il ne craint pas Dieu, et il ne cherche pas à lui plaire en accomplissant sa volonté. Salomon est l'auteur du livre de l'Ecclésiaste. Oui, le roi Salomon est bel et bien l'auteur du livre de l'Ecclésiaste. En général, les spécialistes évangéliques s'entendent sur ce point. En effet, l'Ecclésiaste est le fils de David et roi de Jérusalem. Ecclésiaste veut dire prédicateur ou philosophe. Cela décrit bien Salomon. De plus, au verset 11 du dernier chapitre, nous lisons. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 11. Salomon a collecté et écrit de nombreuses sentences. Nous en avons vu plusieurs en étudiant le livre des Proverbes. Quelques érudits doutent que Salomon ait écrit ce livre, mais il n'y a pas de preuves suffisantes pour abandonner l'attribution traditionnelle de ce livre à celui-ci. Les érudits peuvent répondre à tous les arguments attribuant le livre à des auteurs autres que Salomon. Le livre a probablement été écrit pendant la période de paix dont a joui Israël sous le règne de Salomon. Celui-ci n'avait pas à se préoccuper de faire la guerre. Le pays jouissait d'une prospérité et Salomon n'avait pas à se soucier des besoins matériels du peuple. Salomon pouvait donc se concentrer sur la réflexion philosophique. Salomon a écrit le livre des Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Le livre de l'Ecclésiaste est très différent du livre des Proverbes. Dans le livre des Proverbes, nous avons vu la sagesse de Salomon et dans le livre de l'Ecclésiaste, nous voyons sa folie. L'Ecclésiaste est l'autobiographie de Salomon pendant une période où il s'était éloigné de Dieu. Pour interpréter correctement un livre de la Bible, il est nécessaire d'en avoir une vue d'ensemble. Nous devons aussi connaître la raison pour laquelle le livre a été écrit. Quand a-t-il été écrit? Qui est-ce que l'auteur s'adressait? Il est donc nécessaire de faire cela avec l'Ecclésiaste plus que tout autre livre de la Bible. Sans Dieu, nous trouvons tout vain et inutile. Dans ce livre, nous voyons la philosophie du monde ou la pensée humaine qui ne tient pas compte de Dieu. Si une personne est éloignée de Dieu, elle ne peut qu'en arriver à la conclusion de ce livre. Tout est vanité. Tout est inutile. La vie ne sert à rien. La vie n'a pas de sens. Nous devons comprendre que le livre de l'Ecclésiaste rapporte la pensée de Salomon, mais pas celle de Dieu. Le texte étant inspiré, les pensées de Salomon sont fidèlement rapportées, mais elles ne correspondent pas nécessairement à celles de Dieu. Il faut tenir compte du contexte dans lequel les paroles sont dites, de qui parle et dans quelles circonstances. Par exemple, dans le livre de la Genèse, chapitre 3, les paroles de Satan sont fidèlement rapportées, mais elles ne sont pas vraies pour autant. Considérons aussi Judas. Les détails de sa trahison sont fidèlement racontés, mais c'est Satan qui a inspiré Judas et non Dieu. Il faut donc être prudent en interprétant les énoncés de Salomon dans l'Ecclésiaste. Après avoir marché avec le Seigneur au début de son règne, Salomon s'était éloigné du Seigneur car ses nombreuses femmes, dont des princesses sidoniennes, l'avaient entraîné dans l'idolâtrie. Il semble qu'il se soit repenti alors qu'il était avancé en âge, car à la conclusion de ce livre, il dit « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Ecclésiaste, chapitre 12, les versets 15 et 16. Des athées, tels que Voltaire, ont beaucoup cité le livre de l'Ecclésiaste. Aujourd'hui encore, des personnes cyniques qui aiment critiquer la parole de Dieu citent ce livre. Des sectes religieuses s'appuient aussi sur des versets de ce livre. Elles les citent hors contexte et leur donnent une interprétation particulière. Depuis les débuts, l'homme essaie d'être heureux sans Dieu. Encore aujourd'hui, des millions de personnes essaient de le faire quotidiennement. L'Ecclésiaste démontre l'inutilité de ses efforts. Salomon possédait une sagesse que Dieu lui a donnée pour régner sur son peuple. Il a cherché un sens à la vie, dans des entreprises, dans des travaux et même dans des plaisirs. Il a conclu que tout n'est que vanité. Le mot « vanité » signifie « vain » ou « inutile ». Sans Dieu, l'homme ne peut jamais trouver un sens à sa vie. L'homme est insensé aux yeux de Dieu. Dieu a montré à Job, un homme juste, qu'il était un pécheur à ses yeux. Dans l'Ecclésiaste, Dieu montre à Salomon, un homme sage, qu'il est insensé aux yeux de Dieu. Certaines personnes qui ont fait des hautes études et qui possèdent des doctorats pourraient apprendre une leçon de ce livre. Malgré toute leur instruction, malgré leur capacité intellectuelle, les personnes qui ne sont pas nées spirituellement sont des insensés aux yeux de Dieu. Ceux qui attachent de l'importance à leur quotient intellectuel et à leur instruction acceptent difficilement cette vérité. Dans le livre de l'Ecclésiaste, nous apprenons que sans le Seigneur Jésus, nous ne trouvons aucun sens à la vie dans le monde, même si nous possédons de grandes richesses et toutes les choses dans lesquelles les gens cherchent le contentement. Le monde est incapable de satisfaire les besoins de notre cœur. Dans le Cantique des Cantiques, nous verrons que si nous nous détournons du monde et que nous portons notre affection sur le Seigneur Jésus, nous ne pourrons jamais sonder toute la profondeur de son amour. L'objet de notre amour est trop immense pour notre cœur. Le mot important de ce livre est « vanité ». Il est utilisé 37 fois. L'expression « sous le soleil » apparaît 24 fois. L'expression « j'ai dit en mon cœur » est utilisée 6 fois. Ce livre contient les réflexions d'un cœur humain. Il présente les conclusions que le cœur humain a tirées de ses observations et de ses expériences. Quoique les conclusions de Salomon ne soient pas inspirées, les Écritures qui les rapportent le sont. Les pensées sont rapportées fidèlement et l'origine de ces pensées est indiquée par les expressions « j'ai dit en mon cœur »,« sous le soleil » et « vanité ». Le problème, tout n'est que vanité dans le monde. Ce livre n'est pas une collection de pensées recueillies et présentées pêle-mêle. Dans les 3 premiers versets d'Ecclésiaste, Salomon énonce un problème. Tout n'est que vanité dans le monde. Ensuite, il va démontrer la véracité de cet énoncé en élaborant au sujet des choses dans lesquelles les hommes cherchent le contentement et un sens à la vie. N'oublions pas que c'est un point de vue humain qui est présenté, pas la pensée divine. Salomon a cherché le contentement et un sens à la vie dans la science, dans la sagesse et dans la philosophie, dans le plaisir, dans les biens matériels, le fatalisme, l'égotisme, c'est-à-dire le fait d'avoir une très haute opinion de sa personne, dans la religion, dans les richesses et la moralité. Nous avons le rapport de ses recherches du verset 4 au premier chapitre jusqu'au verset 12 du chapitre 12. Finalement, Salomon nous donne sa conclusion dans les 2 derniers versets du livre. Chers amis, débutons notre lecture, Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 1er. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Seul Salomon correspond à cette description de l'Ecclésiaste. David a eu plusieurs fils, mais Salomon est le seul qui soit monté sur le trône. Il est un philosophe, et Dieu lui a donné une sagesse pour gouverner le pays. N'oublions pas qu'Ecclésiaste signifie « prédicateur » ou « philosophe ». Salomon a reçu la sagesse nécessaire pour gouverner le peuple de Dieu. Je pense que la sagesse que Dieu a donnée à Salomon est différente de ce qu'on imagine. Nous pensons que Salomon a reçu une sagesse spirituelle, mais les Écritures ne disent pas que c'est ce type de sagesse qu'il a demandé. Dans sa requête à Dieu, il a dit « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. » Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? 1 Rois, chapitre 3, verset 9. Il semble que Salomon ait reçu exactement ce qu'il a demandé à Dieu, la sagesse nécessaire pour gouverner le peuple. Il a régné sur le peuple avec beaucoup de sagesse, et Israël a atteint son apogée sous son règne. Son règne se déroula pendant une période de paix. Les autres nations venaient voir Salomon pour apprendre de lui et constater sa sagesse. Il rendait témoignage de Dieu par le temple, l'autel et les sacrifices qu'on offrait sur celui-ci. Ce sont ces choses qu'a vu la reine de Séba lorsqu'elle est venue des extrémités de la terre pour voir et entendre la sagesse de Salomon. Cependant, Salomon ne devait pas avoir beaucoup de discernement spirituel. Maintenant, nous voyons Salomon qui s'est éloigné de Dieu et qui fait des recherches intensives sous le soleil. L'homme, sous le soleil, est très différent de l'enfant de Dieu qui a été béni. De toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Revenons à Ecclésiaste chapitre 1er et lisons le verset 2. « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. » Vanité des vanités, tout est vanité. Le mot vanité signifie néant, vain, Vivre vainement, c'est gaspiller sa vie, ne voyant aucun sens à celle-ci. C'est vivre comme un animal, sans aucun but. De nombreuses personnes vivent ainsi. Avez-vous déjà eu l'occasion de vous trouver dans un hôtel fréquenté par les gens qui aiment voyager? Ces personnes ont visité la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Mexique, la France, l'Inde, ainsi que des pays de l'Asie, de l'Amérique du Sud et de l'Afrique. Ils ont visité de nombreux endroits partout sur la surface du globe. En fait, si nous les écoutons parler, nous observons que leur vie n'a pas de but. Ils parlent des endroits qu'ils ont visités, des pièces de théâtre et des spectacles qu'ils ont vus. Ils discutent entre eux des meilleurs endroits à visiter. Ils n'ont pas de but ou d'objectif dans leur vie. C'est aussi la conclusion de Salomon. Vanité des vanités. Ce sont des gens vides, n'ayant aucun but. La vie n'a pas de sens pour eux. Salomon, le personnage paradoxal des Écritures. Dans le livre des Proverbes, Salomon nous donne des perles de sagesse. Dans l'Ecclésiaste, il nous donne des gouttelettes de folie. Puis, dans le Cantique des Cantiques, Salomon traite de l'amour. La sagesse, la folie et l'amour. Salomon était un expert dans ces trois domaines. Il connaissait bien le rôle du fou. Il gouvernait avec sagesse et sa vie amoureuse était tout un roman. Salomon gouvernait avec une grande sagesse, mais il se conduisait en insensé dans sa vie personnelle. Sa vie est une énigme. Il est le personnage paradoxal des Écritures. L'homme le plus sage était aussi le plus insensé. Le livre de l'Ecclésiaste va nous démontrer cela. La vie sans Dieu n'est que vanité des vanités. Tout est vanité. C'est l'homme qui vit sous le soleil, tout en cherchant un but à sa vie. Lorsque nous voyageons, nous rencontrons une autre sorte de personne dans les hôtels. Nous rencontrons des gens qui assistent à des conventions. Nous sommes à une époque où de nombreuses conventions de toutes sortes sont organisées. J'ai eu l'occasion de rencontrer et d'observer des personnes qui assistent à des conventions. Ils sont différents des voyageurs, mais eux aussi cherchent quelque chose pour combler un vide intérieur. Ils profitent de l'occasion pour consommer de l'alcool. Les conventions se terminent par un grand banquet. Malgré tout le plaisir qu'ils ont eu, ils ressentent toujours un vide en eux. Maintenant, nous allons voir l'être humain faire des recherches dans le but de trouver le contentement, un sens à la vie et une paix intérieure. Il va essayer d'obtenir du jus en pressant le rocher qui est la vie mondaine. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 3. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Sous le soleil. Retenons cette expression. Elle indique que nous examinons le point de vue de l'homme. Ce ne sont pas les pensées de Dieu que nous étudions. Les recherches de l'homme naturel forment le corps de ce livre. Les recherches débutent ici au verset 4 et se poursuivent jusqu'au verset 12 du dernier chapitre du livre. Premièrement, Salomon cherche du côté de la science et de la connaissance. Il observe la nature. Verset 4. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. La durée de vie de l'homme est brève. La terre subsiste toujours, précise le texte. Comparé à la terre, l'homme est très éphémère. Sa durée de vie n'est rien. La continuité de la race humaine est assurée par les naissances. Les individus ne vivent pas longtemps. La plupart d'entre nous n'étaient pas là il y a 100 ans. Et peu d'entre nous seront encore là dans 100 ans. Un certain nombre d'entre nous achèvent leur pèlerinage sur Terre. Cependant, la race humaine survit à travers les générations. Une génération s'en va, une autre vient. Salomon était conscient de la brièveté de la vie humaine. Des séquoias, les arbres géants de la Californie, avaient déjà commencé à pousser alors que le Seigneur Jésus était sur la Terre. Ces arbres sont encore là aujourd'hui. Cependant, ces arbres sont jeunes si nous les comparons à des rochers qui sont là depuis beaucoup plus longtemps. Chers amis, amassons sans tarder un trésor dans les cieux. Bientôt, Dieu nous rappellera à lui. Et les biens que nous avons reçus en héritage et les biens que nous avons acquis passeront à d'autres. Nous n'emporterons rien avec nous. C'est pourquoi il est important d'amasser un trésor dans les cieux. Ne perdons pas le temps et accomplissons les tâches que le Seigneur nous a confiées. La vie est si brève que nous n'avons pas vraiment le temps de jouir des biens que nous accumulons. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 19 et 20. Et c'est l'enseignement du Maître lui-même, du Seigneur Jésus. La mort assure l'échec des efforts humains pour donner un sens à la vie. Sans Dieu et sans l'éternité, la vie ne fait aucun sens, elle est vaine. Nous travaillons pour améliorer notre sort, et si nous réussissons à la faire, il ne nous reste que peu de temps pour en jouir, car la vie est brève. Souvent, lorsqu'il est temps de jouir de nos biens, nos forces commencent à diminuer. La mort assure l'échec de tous nos efforts humains. Si nous travaillons seulement pour profiter de cette vie, nous travaillons vraiment en vain. En affirmant que la terre subsiste toujours, Salomon ne dit pas qu'elle est éternelle. En fait, elle subsiste longtemps comparée à la longévité moyenne de l'être humain. Cependant, à la fin des temps, un nouveau ciel et une nouvelle terre seront créés. C'est ce que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Depuis que l'homme l'habite, la terre ne s'améliore pas et ne se transforme pas. Les lois de la nature demeurent les mêmes, et les cycles naturels se répètent continuellement. Le verset suivant nous donne un exemple de cycle naturel. Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 5. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Un jour en appelle un autre. L'homme naturel peut considérer les cycles de la nature comme étant d'une monotonie ennuyeuse. C'est toujours la même chose qui se produit. La vie tourne en rond. Sans Dieu, nous n'avançons jamais. C'est l'éternel recommencement. Et rien ne donne un sens à la vie. Rien ne comble le vide de notre âme. Rien ne nous procure le contentement. Comme une souris dans sa cage, elle tourne en rond. Dans la prochaine émission, nous reprendrons à ce verset. Salomon a cherché un sens à la vie dans la science. Nous verrons si cela est possible, et nous réfléchirons au rapport entre la Bible et la science. Vous noterez au cours des prochaines émissions, chaque fois que Salomon a cherché un sens à la vie dans un des domaines cités, la science, la sagesse et la philosophie, le plaisir, les biens matériels, le fatalisme, l'égotisme, la religion, les richesses et la moralité, chaque fois qu'il explorera une de ces avenues, il devra rebrousser chemin devant un cul-de-sac. Il terminera sa recherche en disant que tout est vanité et il essaiera l'avenue suivante. Le contraste avec l'épître aux Philippiens est frappant. Dans l'épître, nous rencontrons des chrétiens en relation avec leur Seigneur, et ces chrétiens s'aiment les uns les autres en plus d'aimer Dieu. Ils vivent dans la joie malgré des tribulations. Par contre, pendant que Salomon était éloigné de Dieu, il n'a pas éprouvé cette joie malgré ses richesses, sa sagesse pour bien gouverner et tous les plaisirs qu'il pouvait s'offrir. Prochaine émission, Ecclésiaste chapitre 1er, versets 5 à 14.
Merci Régent. Tu nous as rappelé aujourd'hui que la science, la sagesse, la philosophie, le plaisir, les biens matériels, le fatalisme, l'égotisme, la religion, les richesses et la moralité ne peuvent définitivement pas nous donner le contentement dont on a besoin. Tu as dit que sans Dieu, on n'avance jamais. C'est l'éternel recommencement et rien ne donne un sens à la vie. Rien ne comble le vide de notre âme. Et c'est donc vrai. Mes amis, pendant des années, j'ai cherché un sens à ma vie. J'ai cherché le contentement. J'ai cherché l'amour, la paix, la justice. Et dans tout ce que j'essayais, je frappais un mur. Et je me décourageais de plus en plus, jusqu'au jour où j'ai trouvé l'auteur du contentement et de la vraie vie, celle qui a réellement du sens. Et cet auteur, c'est mon Créateur, c'est Dieu lui-même, celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent, incluant l'être humain. Et je suis tellement reconnaissante envers Dieu de s'être révélée à moi, d'avoir placé une personne sur mon chemin pour me dire que oui, il y a de l'espoir pour ceux qui placent leur confiance en Jésus seul. Mon ami, connais-tu Jésus? Le connais-tu intimement? Y a-t-il un moment dans ta vie où il s'est révélé à toi comme étant le seul qui pouvait pardonner tous tes péchés et te donner un sens et surtout te donner la vie éternelle? Sinon, je t'invite à bien écouter ce que Dieu a mis sur mon cœur pour toi. De toute éternité, Dieu savait que tu serais ici, sur cette terre, en ce moment, et que tu entendrais ce qu'il a à te dire. Et c'est par la foi que tu peux recevoir une toute nouvelle vie, une vie éternelle. As-tu essayé de trouver le contentement de toutes sortes de manières, par les bonnes œuvres, par la religion, la sincérité, en faisant du bien aux gens autour de toi, ou par la lecture de toutes sortes de philosophies, ou par le succès en affaires, ou dans une profession, par les richesses? Eh bien, je suis certaine que si tu as cherché le bonheur par ces moyens, tu es encore en face de rien du tout. Mais maintenant, Jésus te parle par ma petite voix, et il te dit ce qui est écrit dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20. Il dit « Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si tu entends ma voix, si tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi. Je souperai avec toi et toi avec moi. » Mon ami, quand on veut souper avec quelqu'un, c'est qu'on veut avoir une belle intimité avec lui, avec elle. Jésus veut souper avec toi. Il frappe à la porte de ton cœur et il n'y a qu'une poignée à cette porte et elle est en dedans. Mon ami, ouvre la porte de ton cœur. Laisse Jésus entrer. Reconnais que tu es un pécheur, une pécheresse perdue. Repens-toi, change de direction à l'égard du péché. Tu peux pas payer ta rançon toi-même. Jésus l'a payé en entier en mourant sur la croix pour toi. Reçois-le comme ton sauveur.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Réjean. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.